Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
La dernière fois, nous nous sommes penchés sur les proverbes, soulignant l'importance des paroles que nous prononçons, car elles peuvent influer sur ceux qui nous écoutent, soit en bien, soit en mal. Il est donc important de réfléchir à leur portée avant même de les prononcer. Aujourd'hui, mon invité Alain a choisi de nous parler d'autres proverbes sur le thème de la communication. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais développer trois thèmes concernant la parole. À travers le premier, nous allons voir que les paroles ont un pouvoir limité, car par elles seules, nous ne pouvons pas tout accomplir. Écoutons pour comprendre cela le proverbe au chapitre 14, verset 23. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement.
Et comment comprenez-vous ce verset ?
Deux éléments sont à retenir. Tout d'abord, aucune parole ne pourra remplacer le travail, car ce n'est pas, par exemple, en bavardage que nous ensemencerons un champ ou moissonnerons des récoltes. Ce n'est pas non plus en discourant que nous pourrons façonner des objets artisanaux ou travailler en usine. Ensuite, ce proverbe nous apprend qu'il est possible de gaspiller son temps en bavardage inutile, jusqu'à en arriver à négliger d'importantes responsabilités telles que travailler, veiller sur sa famille et d'autres encore.
Donc ce n'est pas en belles paroles que nous gagnerons notre pain quotidien. Et si nous préférons passer notre temps à bavarder avec des amis ou des voisins, nous risquerons d'en récolter les conséquences. Le temps perdu de la sorte pourrait avoir des incidences sur nos revenus.
Il est vrai que si nous passions au travail notre temps à discuter avec les uns et les autres, au lieu d'accomplir les tâches qui nous sont confiées, nous pourrions finir par être renvoyés, sans parler de toutes les conséquences que cela impliquerait.
Effectivement, aucune parole vaine ne pourra remplacer un travail efficace. Mais quel est le deuxième thème que vous vouliez évoquer ?
Selon les proverbes, les belles paroles ne réussissent pas à dissimuler un cœur corrompu. Écoutez au chapitre 26, le verset 23. Comme un vernis sur de l'argile, des paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous.
Nous pouvons tous rencontrer des beaux parleurs, cherchant à flatter ou à séduire, afin de profiter d'une situation ou de nous conduire à notre perte. Et ces proverbes nous apprennent qu'il est possible avec le temps de discerner derrière les paroles mielleuses le véritable motif.
Nous pouvons dire que tôt ou tard, la véritable intention des uns et des autres se manifestera, car les paroles trompeuses ne pourront jamais cacher la vérité. Un arbre peut présenter un beau feuillage, mais s'il ne produit pas de fruits à la gloire de Dieu, tôt ou tard, cela se comprendra. Il nous faut aussi apprendre à connaître une personne, non seulement par ce qu'elle peut dire, mais aussi par ce qu'elle fait réellement.
Et même si certaines personnes parviennent à dissimuler aux hommes leurs méchantes intentions, il est impossible de les cacher loin du regard de Dieu.
Tout à fait. Dieu voit tout. Nul ne peut le tromper ni se cacher loin de sa face. Et cela devrait inspirer la crainte de l'Éternel dans les cœurs. Car tous, nous serons jugés d'après nos actes comme d'après nos paroles.
Ainsi chacun, nous devons veiller à ce que nous disons, afin de ne pas nous contredire par ce que nous faisons. Mais quel est le troisième thème que vous vouliez aborder ?
Le voici. Par nos paroles, nous ne réussissons pas à changer la personne qui refuse d'écouter. Je vais citer deux proverbes illustrant cette pensée. D'abord au chapitre 29, verset 19. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur, si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. Et chapitre 17, verset 10. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé.
Admettons que nous voulons convaincre une personne, la persuader de suivre tel ou tel conseil, pour qu'elle comprenne ce que nous lui expliquons, elle doit avant tout désirer et nous écouter. Elle doit être attentive aux conseils que nous lui apportons. Elle doit vouloir nous faire confiance.
Oui, les proverbes qualifient d'insensé celui qui s'obstine à ne pas écouter les bons conseils, car il se prive ainsi d'une occasion d'apprendre et de progresser vers une maturité d'esprit. Par contre, il y a des personnes que nous ferions mieux de ne pas écouter.
Lorsqu'elles nous incitent à agir de façon injuste, ou que le conseil conduise à notre perte, par exemple.
C'est exact. La sagesse nous enseigne à avoir des paroles justes et droites pour accomplir le bien, mais aussi à écouter avec discernement ceux qui nous parlent.
Ainsi, celui qui agit avec sagesse doit refuser d'écouter ce qui l'inciterait à faire le mal. Il doit s'éloigner de ce qui le placerait devant les tentations.
Oui, vous avez raison. Tous nous sommes responsables de nos propres actes et nous devons décider qui nous allons écouter. Toute parole va nous influencer et nous devons avoir du discernement afin de retenir uniquement les paroles droites, les paroles qui vont nous faire croître dans la connaissance de Dieu, nous aider à être justes devant les hommes et à dispenser le bien autour de nous.
Merci Alain. Que Dieu nous aide à discerner qui écouter dans ce monde où les uns et les autres parlent et expriment leurs pensées. À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouve totalement démuni et affamé. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et voulut rentrer chez lui. Il espère y être reçu comme un serviteur. Or, voici la suite de l'histoire.
Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le-lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. »
Flavien, la dernière fois, nous avons réfléchi sur le désir de ce jeune homme d'être reçu chez son père en tant qu'ouvrier. Certains se comportent ainsi. Ils espèrent par leur bonne conduite, leurs bonnes œuvres ou actes de piété, effacer la gravité de leur faute devant Dieu, apaiser sa colère et être justifiés.
Or la Bible affirme que cela est impossible. Rien de ce que nous offrons à Dieu ne pourra couvrir nos fautes.
Comment donc est-il possible de se réconcilier avec Dieu? La parabole que nous venons de lire est l'histoire d'un fils se réconciliant avec son père. Ne nous donne-t-elle pas l'espoir que pareille réconciliation est possible entre Dieu et les hommes?
Ce père accepte de recevoir son fils en tant que tel et non comme un ouvrier. Il le fait non pas parce que celui-ci désirait travailler pour lui, pour être puni à cause de ses fautes. Non, il le fait car il a l'ardent désir de se réconcilier avec son fils. Il le fait parce qu'il l'aime. Il lui offre son pardon. Il fait preuve de miséricorde envers lui. Je peux aussi ajouter que ce père a subi l'humiliation qui devait tomber sur son fils.
Là, vous me surprenez. Pouvez-vous vous expliquer?
Nous avons lu. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui, et il courut à la rencontre de son fils. Je vais m'arrêter sur deux mots. Il courut. Vous est-il déjà arrivé, dans votre village ou dans votre ville, de voir des hommes d'un certain âge se mettre à courir? À l'époque de Jésus, cela ne se faisait pas. car un homme qui se mettait à courir perdait sa dignité devant les autres, ce qui devenait fort humiliant. Souvenez-vous que pour rentrer chez lui, le jeune homme de notre parabole devait traverser son village. Or, les gens savaient ce qu'il avait fait. Ils savaient qu'il avait péché contre son père, et de ce fait, ils ne l'auraient pas bien accueilli. Les villageois l'auraient méprisé, ils l'auraient insulté et humilié. Certains, peut-être, auraient même pu commettre des actes de violence contre lui.
Donc ce père, en courant vers son fils, s'humilie devant les villageois afin de le protéger de l'humiliation qu'il aurait pu subir.
C'est exact, Yann. Le père a pris sur lui-même l'humiliation qui aurait dû tomber sur son fils. Ensuite, tous ses gestes envers lui montrent aux villageois qu'il y a pardon et réconciliation. Ainsi, lorsque le père accompagne son fils à travers le village, les villageois n'osent à présent plus maltraiter le jeune homme.
Comment pouvez-vous être aussi sûr de cette interprétation ?
Eh bien, des savants ont fait des recherches et sont arrivés à la conclusion que les gens ayant entendu Jésus raconter cette parabole auraient compris les choses ainsi. De toute évidence, cette interprétation représente la vie dans les villages de cette époque.
Merci. Et pour conclure, quelle leçon spirituelle voulez-vous souligner ? Car tel est notre but principal, retenir une instruction pour aujourd'hui.
Eh bien, Jésus nous permet, à travers cette parabole, d'entrevoir la façon dont il allait accomplir sa mission. Jésus est comme ce père courant vers son fils perdu pour couvrir sa faute. Il accepte de s'humilier. Il veut que nos péchés soient effacés. Il veut nous réconcilier avec Dieu et subir l'humiliation à notre place. Savez-vous, Yann, quelle était la plus grande humiliation pouvant être vécue dans le monde romain à l'époque de Jésus ?
Vous pensez sans doute à la peine de mort par crucifixion.
C'est exact. Jésus subit nombre d'humiliations. Lui, le Fils éternel de Dieu. Il quitta les lieux célestes pour vivre parmi les hommes. Sans cesse, il fut méprisé, critiqué et insulté. Il connut la trahison, l'injustice et la violence. Il finit ses jours suspendu à une croix, lui, innocent de tout crime. Il aurait pu échapper à une telle humiliation, mais volontairement, il s'est donné, tout comme le père de la parabole courut délibérément vers son fils. Jésus accomplit ces choses par amour pour nous, afin de nous épargner le juste châtiment de nos fautes. Aujourd'hui, si nous désirons nous approcher de Dieu, faisons-le en acceptant tout simplement son cadeau, qui est le pardon, la réconciliation obtenue par Jésus au prix de son sang.
Merci Flavien. Quel cadeau merveilleux Dieu nous a donné en Jésus-Christ.
À présent, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.